Bienvenue sur RLP pour notre rubrique Culture éclair. Une demi-heure d'échange, de partage, de passion, d'idées de sortie et tout simplement de plaisir. Bonjour et bienvenue sur RLP pour notre rubrique Culture éclair. Aujourd'hui, nous avons Émilie à la technique, Valérie au micro et nos invités Florence et Grégory Mangeret. Florence et Grégory, vous êtes les nouveaux propriétaires du château de Fayolle depuis le mois de mars 2024. Le château de Fayolle trône sur la commune de Tocane-Saint-Apre depuis la fin du XIIIe siècle. Cette majestueuse bâtisse se dresse fièrement dans un parc verdoyant de 55 hectares. Florence et Grégory, quel est le petit grain de folie qui vous a conduit jusqu'au château de Fayolle en Périgord vert? Je vais m'adresser plutôt à Florence.
Alors l'idée de base était au départ un petit projet familial, c'était de se rapprocher de ma maman qui est dans le coin, alors qui n'est pas en Périgord, qui est en Charente, mais vraiment à 5 km du Périgord vert. Voilà, moi je suis née à Bergerac et j'ai grandi à Saint-Sulpice-de-Romagnac, qui est un petit village qui est à environ un quart d'heure de Tocane. Voilà. Donc l'idée de base était de se rapprocher de ma maman, dont on était parti au départ sur une petite maison de campagne. Voilà, et de fil en aiguille, cette maison de campagne, c'est devenu un gros projet.
C'est parti en vrille, en fait, hein, parce que voilà, ça devait être une petite maison de campagne, effectivement, dans un petit coin de paradis. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte que, alors parce que les recherches datent depuis de nombreuses années, hein, avant de trouver notre coin de paradis, on a sillonné toutes les routes du Périgord vert. Et c'est vrai qu'avec Florence, on s'est dit, c'était plus à l'époque du Covid, on nous a emmenés dans un château qui était plutôt accessible et on a eu un coup de cœur. Et ce château, on n'a pas pu l'avoir pour X raisons. Et en fait, on s'est dit, mais pourquoi pas un château, créer des événements et puis derrière pouvoir créer un modèle économique pour en faire l'acquisition. Et force des rencontres qu'on a eues, de tout ce qu'on a visité, on est tombé un jour avec Florence à l'extérieur, devant le château de Fayolle. On n'y passe pas par hasard, en fait, c'est le réseau, il n'était pas spécialement en vente, en fait, le château de Fayolle, et c'est le réseau qui nous a amené, ou peut-être même le château de Fayolle qui nous a tiré vers lui, parce qu'on a tendance à dire avec Flo que le château de Fayolle nous a choisi plutôt que nous l'avons choisi, voilà, et parce que le jour où on était face au château de Fayolle, on s'est rendu compte que toutes les planètes se sont alignées, et que finalement tout s'est bien goupillé, et pour qu'on puisse en faire l'acquisition assez naturellement, paradoxalement, puisque voilà, c'est un édifice qui est hors norme, tant par la taille que par l'influence, que par l'histoire. Ben en fait, on est dedans aujourd'hui et on accueille un public de tous les jours de plus en plus nombreux. Voilà. Et c'est une vraie satisfaction pour nous deux et c'est un rêve qui devient réalité. On aimerait faire partager ce rêve au plus grand nombre.
La dernière fois que je vous ai rencontré, vous m'avez dit que le château de Fayolle était repéré sur une carte mondiale des sites référencés Urbex. Donc, un peu ouvert à tous les vents. Dans quel état l'avez-vous trouvé?
Alors, il était extrêmement poussiéreux, c'est moins qu'on puisse dire. Ensuite, les urbex, nous, enfin, personnellement, on n'a rien contre. On va dire que les véritables urbex, normalement, ce sont des gens qui aiment la pierre, qui s'introduisent effectivement de façon illégale, mais en général, ils aiment vraiment la vieille pierre. Voilà. Par contre, malheureusement, le château a quand même connu du vandalisme, et là, c'est sûrement pas les urbex. Donc, le château est quand même en bon état, mais on a vu, nous, des photos qui datent de quelques années, et il était quand même bien plus joli avant, et nous, on voudrait justement qu'il redevienne aussi joli que les années précédentes.
Ouais, il y a eu pas mal de dégradations, parce qu'en fait, ça fait un peu plus d'une dizaine d'années qu'il a été laissé un peu à l'abandon par... En tout cas, la famille qui n'a pas forcément eu la possibilité de le suivre, de l'entretenir, de le visiter régulièrement, parce que la famille, les héritiers n'habitent pas sur place, ils sont même pas spécialement de la région, donc voilà. Et c'est vrai qu'il était identifié par... toutes les personnes qui connaissent bien l'urbex comme un lieu référent de l'urbex dans le monde, dans l'Europe, pour pouvoir visiter un site incroyable en Périgord, et c'était le château de Fayolle. Donc nous, ça nous a valu pas mal de petites histoires assez croustillantes, dans le sens où on a rencontré, dès qu'on avait les clés, de nombreux urbex qui sont venus, qui sont passés dans la cour, venaient du Portugal, qui venaient de Suisse, qui venaient de Hollande, croyant eux-mêmes que nous étions urbex. On leur a dit que non, on était le nouveau propriétaire, et on leur a dit que le château aller ouvrir prochainement et qu'ils pourraient revenir pour prendre des photos tant qu'ils voulaient, mais bon, ça les intéressait moins.
Il y en a certains qui viennent, qui jouent vraiment le jeu, qui payent la visite. Dernièrement, on a eu un contact d'un urbex qui est en Belgique, qui m'a dit, voilà, je vais revenir exprès, je vais prendre des vacances pour revenir voir le château de façon, cette fois-ci, on va dire, légale. Donc, non, c'est sympa quand même.
Et c'est vrai que, mais on comprend, alors moi, je ne connaissais pas spécialement cette activité, hein, on a beaucoup de respect pour tous les gens qui aiment bien explorer, parce qu'ils ont, comme dit Flo, ils ont beaucoup d'amour,
pierre,
de la pierre, du patrimoine,
pierre,
ouais. D'explorer des lieux un peu abandonnés sans pour autant altérer ou en tout cas les abîmer. Le château en lui-même était dans son jus, et il l'est toujours, hein, d'ailleurs, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est très prégnant, quoi. Je veux dire, on a invité de nombreux demeures, nombreux châteaux avant de trouver ce château incroyable. Et bien celui-ci, on retrace toutes les tranches de vie du 18e jusqu'à la génération, la dernière génération finalement qui est contemporaine, qui est de notre génération, puisque jusqu'en 2012 ils vivaient au château, les deux Fayolle, le marquis et son épouse étant décédés cette année 2012, et donc on a encore les traces de vie actuelle comme les traces de la vie du 18e, du 19e, et tout est dans le château, et ça c'est assez incroyable, quoi. Et donc on comprend que les urbex puissent être intéressés par explorer cet édifice.
En visitant le château, j'ai trouvé qu'il avait un côté très contemporain. Je prendrai l'exemple de la chambre bleue avec les deux lits reliés par un rail pour les rapprocher selon leurs envies. C'était très astucieux.
Ouais. Oui, c'était moderne quand même pour leur époque. Ils étaient en avant-gardiste quand même, de toute façon.
On se demande surtout pourquoi il les séparait, les lits, quoi. C'est quand ils se faisaient la gueule, peut-être. Quand ils étaient fâchés, ils séparaient les lits.
Si tu ronflais, ils étaient quand même tout prêts. Ouais, si on repart un peu sur l'histoire de ce château de Fayolle, alors la famille de Fayolle, c'est vrai qu'elle est très prégnante, très présente sur le département de la Dordogne. Mais les premières traces que l'on retrouve de ce beau domaine, elles datent du XIIIe siècle, si je ne dis pas de bêtises, avec un cluseau que l'on aperçoit encore dans la cuisine. Et à cette époque, je crois que le lieu, on l'appelait, le nom, c'était le Repeiro de Fayolle, le repère de Fayolle. Ouais. Quoi.
D'après mes informations, ce n'est pas du XIIIe, c'est avant, a priori, ce serait le repère de Fayolle serait du 12e, mais ça ensuite, voilà, on n'a pas, on n'est pas des historiens, et puis alors pour le coup, on a en face de nous une histoire aussi longue que l'histoire de France finalement, donc c'est compliqué de remonter les bonnes informations. On est en train de le faire avec des historiens, avec des personnes très compétentes, des docteurs en histoire, mais le Cluseau daterait même d'après nos informations du 9e siècle. Et il y a des vestiges dedans qui seraient aussi longs, aussi lointains que cette période. Ouais, absolument. Mais les premiers noms de Fayolle étaient plutôt au XIIe siècle, d'après ce qu'on sait. Voilà, il y a même un chevalier de Fayolle assez célèbre qui est revenu de croisade qui a fait construire aussi une chapelle, puisqu'il ne pensait pas revenir de croisade, et il a fait construire une chapelle à Tocane-Saint-Abre parce qu'il était toujours vivant. Voilà, donc les deux Fayolle étaient effectivement très connus depuis de nombreux siècles. C'est ce qui a valu d'ailleurs l'érection de la terre en marquisat par Louis XV en 1724, qui a donc octroyé le marquisat et le titre de marquis du coup aux deux Fayolle pour bons et loyaux services rendus à la couronne de France par les différentes générations qui précédaient le premier marquis de Fayolle, Nicolas, donc premier du nom en 1724. Voilà. Et depuis, s'en sont suivis 9 marquis en plus de Nicolas, donc il y a eu 10 marquis au total. Le dernier, donc encore une fois, était Alain de Fayolle, décédé il y a une douzaine d'années.
Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut visiter aujourd'hui au château de Fayolle? Qu'est-ce qu'on peut y découvrir? Je crois que c'est d'une manière un petit peu originale en plus.
Oui, en fait, c'est une visite, on a voulu faire ça de façon assez originale. Donc, c'est une visite contée et théâtralisée, donc faite par un comédien. On a 4 comédiens qui tournent parce que c'est quand même 5 créneaux par jour. Donc, quand un comédien fait une journée, on peut vous dire qu'il est fatigué quand même. Donc, on a 4 comédiens qui tournent, mais toujours pour la même visite. Et donc, c'est une visite qui mêle à la fois l'histoire, parce que vous apprenez quand même bien sûr des choses sur le château, la famille, le Périgord aussi en général. Et où ça mêle aussi un peu d'humour, de poésie. Et voilà, c'est vraiment très agréable. Et ça plaît vraiment à tout le monde. Ça, c'est très important. Ouais. Parce qu'on a vraiment des enfants de tout âge qui viennent. Les enfants adorent, même les adolescents. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, on a eu un couple avec un petit garçon de 2 ans et demi. Et donc, les parents m'ont dit, écoutez, il y a des chances quand même qu'ils ne tiennent pas le couple et qu'on arrêtera avant. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, avertissez le comédien pour ne pas le vexer. Ils m'ont dit... Et en fait, le petit garçon ne voulait plus partir. Voilà. Il a tellement aimé. Il est reparti au parking. Je l'ai vu revenir. Il dit, non, mais je reste là. Je reste au château. Enfin, incroyable. En plus, les comédiens s'adaptent quand tu as des enfants. Et c'est vraiment très, très agréable. Et donc, on visite combien, 7-8 pièces 9, à peu près
9 pièces.
Ah, 9, ouais. 9 pièces, voilà, 9 pièces, dont deux chambres, le théâtre, bien sûr, le magnifique théâtre, la magnifique bibliothèque, la salle à manger, la salle de bal, la cuisine, et le grand hall, voilà, c'est ça.
Le grand hall.
Et le musée, ce qu'on appelle le musée.
Ce qui est très important pour nous, c'est vraiment de rendre accessible au plus grand nombre ces visites, qui sont des visites en pré-ouverture, hein, donc que ça plaise aux enfants, mais pas que, mais évidemment à toutes les personnes. On n'est pas dans une visite, on est dans une visite ludo-éducative, enfin surtout éducative, mais sans que ce soit pénible. C'est pas une visite historique de manière ultra pointue, mais
on apprend quand même des choses,
mais voilà, ouvert au plus grand nombre. On apprend des choses, et le plus important, c'est qu'on retienne quelques deux trois éléments qu'on puisse ressortir par la suite en dîner en famille, voilà. Et c'est surtout qu'on en prend plein la vue, puisque le château de Fayolle et ses espaces sont vraiment somptueux et magnifiques, et bon nombre de personnes connaissent sur le territoire le château de Fayolle sans y être pour autant jamais rentré, puisque c'est un château qui était à destination d'habitation, donc un château privé, voilà, et pas un château royal, voilà. Et quand on voit dans quoi il vivait de manière tout à fait privée, eh ben, c'est juste assez fou, quoi.
Je rajouterais même, c'est un château qui bénéficie d'un important capital sympathie de la part des autochtones. Oui, je crois qu'ils vous ont raconté pas mal d'histoires aussi. Ouais. Vous en avez quelques-unes ?
Mais alors, oui, il n'y a pas un jour où on n'a pas quelqu'un qui dit ma grand-mère était métayère et j'ai pu rentrer petite. Alors, c'était assez marrant. L'autre jour, j'ai eu une dame qui avait 85 ans. Je me dis, mais je suis venue pour la première fois. Enfin, elle était toute petite. Sa grand-mère travaillait au château. Et donc, elle a dit, je suis venue, elle devait avoir 10 ans à peu près dans le château. Et donc, elle n'était jamais revenue depuis. Et donc, elle a fait la visite. Et c'est marrant parce que la cuisine du château est quand même très grande. Mais dans son souvenir, elle est encore beaucoup plus grande. Donc, elle est ressortie en disant, ah, mais c'était ça la cuisine. J'ai dit oui, mais quand même. Ça faisait donc un souvenir qui datait de plus de 60 ans, donc c'était vraiment très émouvant. Et ce qu'on nous raconte très souvent aussi, alors ça, je crois qu'on n'a pas une journée sans ça, c'est que tout le monde nous raconte que la marquise, lorsqu'elle faisait ses courses, par exemple à la boucherie, elle rentrait, elle passait devant tout le monde. Alors, on a raconté ça à sa fille, qui est venue faire la visite du château il y a deux jours. Elle a dit oui, mais c'est parce qu'elle précommandait à l'avance et qu'elle ne voulait pas faire la queue ensuite. Il y avait des gens qui le prenaient plus ou moins bien en disant, bon, c'est pas parce que c'est une marquise, elle arrivait et passait devant tout le monde. Ouais. Ça, on nous raconte souvent des petites choses comme ça. Mais... On va faire un livre d'or, on va avoir un grand livre et puis les gens mettront des petits témoignages.
En fait, on sous-estimait ça, hein, quand on a signé le château de Fayolle, c'est-à-dire que c'est pour ça d'ailleurs que notre affiche et l'accroche qu'on a, c'est le château de Fayolle, un patrimoine, mille et une histoires. Bon, mille et une, évidemment facile pour les châteaux, hein, mais mille et une histoires parce qu'en fait, on se rend compte que toutes les personnes qui passent à Fayolle, qui sont du territoire, ont un lien plus ou moins direct avec le château de Fayolle dans leur famille, que ce soit les grands-parents, les arrière-grands-parents, les oncles qui étaient certains métayers, d'autres qui étaient
le
docteur, le couturière, la cuisinière, le régisseur, bref, tout le monde connaît Fayolle. Il faut dire que le marquisat, c'était 5000 hectares, donc évidemment il y avait donc 30 métairies autour, donc toutes les familles autour travaillaient pour Fayolle et avec Fayolle, et donc les gens sont vraiment ils ont un attachement tout à fait particulier par ce château. Donc c'est pour ça qu'on a mille et une histoires dans ce château, et c'est aussi mille et une histoires qu'on va raconter dans tous les événements qu'on va développer à partir de l'année prochaine. Voilà, parce que cette année, vous le savez, c'est une préouverture, et le plus important pour nous, c'était de pouvoir donner accès à ce château, aux espaces principaux du château, principalement pour la population locale, pour les locaux qui nous pressaient de visiter ce château. Voilà, l'année prochaine, je pense qu'on va en parler après, mais on aura un programme plus dense. Là, c'est vraiment 5 visites par jour, qui sont des visites donc comptées, comme disait Florence, avec un guide conférencier, un comédien conférencier, et ça, c'est jusqu'au 1er septembre, donc c'est très événementiel, c'est juillet-août, jusqu'au 1er septembre. Voilà, et ensuite, on essaye de se refaire une petite beauté pour accueillir pour l'année prochaine.
Je pense que c'est important vraiment qu'on remercie les locaux, parce que c'est impressionnant le nombre de locaux. Il n'y a pas un jour où on n'a pas au moins 30 visiteurs qui disent « Mais moi, je suis votre voisin !» Alors, donc, il y en a de toutes parts. En fait,
il y a
des
voisins.
Mais voilà, je me dis « Mais on a tant de voisins que ça !» Mais c'est incroyable. Et puis, de tous âges, et ça fait énormément plaisir. Et vraiment, les gens nous disent « Mais merci de sauver ce château !» Enfin, on sent... Et on a l'impression d'être une
ça
grande
nous met
famille,
la pression, quoi.
Ça met la pression, mais c'est en tout cas, ça fait plaisir. On a vraiment envie.
Oui, il bénéficie d'un réel capital sympathie.
Oui, tout à fait.
Complètement.
Et on n'est pas du tout du style mystique, tout ça, mais déjà, il y a de bonnes appréhensions quand on est dans des bonnes ondes.
Très
bonnes,
très
voilà. Et ensuite, juste pour aussi relayer ça, c'est-à-dire que le château n'a pas vraiment subi de dégradation à l'époque Révolution 1789. Mmh. Je crois que les deux fayoles étaient un esprit
de...
oui, proche des gens, proche des terres,
proche du peuple, et tout ça.
Proche du peuple
ça.
Avec ouais. un esprit avant-gardiste, un esprit de lumière. Voilà, mmh. Et c'est vrai que, bon, je veux dire, il y a le peuple était aussi proche de, mmh. de Fayolle, des deux Fayolle mmh. Et du château. Mmh. Donc pour nous, ça fait sens, tout ça.
Ça
voilà.
Exactement.
Alors, je rappellerai pour nos auditeurs qui veulent aller découvrir le château, donc vous appelez au 07 68 71 43 61 pour réserver, ou alors vous allez directement sur le site châteaudefayolle.com et je crois que vous aurez toutes les informations. Donc vos projets, parce que vous m'avez lancé la transition,
oui, bah
donc
oui.
maintenant on y revient.
Bah évidemment, il faut essayer de voir un petit peu plus, un petit peu plus loin. Le projet, comment ? Le projet du château de Fayolle s'est développé un programme culturel événementiel sur une saison, on va dire, assez classique hein, en Périgord, avec donc de avril à octobre, avec trois catégories d'événements. La première, bon, c'est des visites plus ou moins classiques, hein, avec des visites libres, des visites comptées, des visites théâtralisées. On est en train de travailler pour l'année prochaine et voir comment on va configurer les visites. Aujourd'hui, donc, c'est juste une visite comptée, mais ce sera beaucoup plus dense que ça pour les années et la saison prochaine, les années à venir. La deuxième typologie d'événements, ce seront des événements ponctuels, éphémères, avec ça peut être le bal de la marquise, ça peut être un concert à la bougie, ça pourrait être la chasse aux œufs géants, de manière assez classique finalement là, mais parce que tous les châteaux font ça, mais voilà, donc des événements qui seront très identifiés sur un jour, une soirée précise, et le troisième événement qui sera considéré que sera quelque chose un événement marqueur du projet global, puisqu'on va faire un appel aux bénévoles pour qu'ils soient ceux qui auront envie d'être comédiens, le temps d'un spectacle sur une durée assez courte. Hein, là, on projette de faire ça sur une semaine, sur deux week-ends, sur la saison prochaine. On n'a pas encore les dates exactes, mais ce sera pour l'été, le début de l'été de l'année prochaine, pour remettre en scène le château les alentours du château tels qu'ils étaient au XVIIIe siècle. Donc, mise en vie du château avec des costumes, des comédiens bénévoles, mais encadrés par des comédiens professionnels. Donc ça donnera l'occasion aux personnes qui voudront participer au projet de se former aussi sur les techniques de comédien et surtout de faire partie d'une grande représentation pour toute la population qui voudra venir redécouvrir ce château avec des scènes de vie, la cuisine en ébullition, une réception dans la salle à manger. Voilà, c'est comme si on avait un œil à travers la serrure pour voir comment ça se passait au XVIIIe siècle.
On commence à avoir une liste de visiteurs qui sont complètement d'accord encore tout à l'heure là pour faire partie du projet. Ma mère sera bien sûr la première. Moi, sûrement une cuisinière.
Et ce qu'on souhaite, c'est avoir, entre 100 et 150 comédiens bénévoles. Donc la liste est déjà bien entamée aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup de noms qui viennent, qui s'inscrivent. On fera un petit appel, peut-être chez vous, si vous nous redonnez la parole d'ici la fin de l'année, pour pouvoir configurer tout ça, et puis les bénévoles, organiser tout ça. Et en fait, on veut vraiment que ce soit un projet participatif et qui mette à contribution les locaux. Et ça, c'est vraiment dans l'ADN de notre projet global, puisque pour moi et pour nous, Florence et moi, c'est un château, ça doit être un lieu de vie qui regroupe les locaux, le territoire local, et c'est vraiment ce qu'on veut en faire, c'est-à-dire un projet participatif et un lieu de retrouvailles, de rencontres, de découvertes, d'échanges. Et ça, c'est super important, ça va vraiment être quelque chose, un dénominateur commun dans l'ensemble des manifestations qu'on va organiser au château de Fayolle à partir de avril 2025 maintenant.
25, voilà. Oui. Ça arrive très vite.
Ça arrive très vite. Voilà.
J'ai vu que pour faire vivre aussi ce château, vous faites appel à des dons.
Oui, absolument. Donc, là, on est en train de configurer tout ça également avec les partenaires qui nous accompagnent, les professionnels qui nous accompagnent là-dessus, notamment, la Fondation du patrimoine, ça peut être aussi la demeure historique. Donc, là, on est en train de travailler des projets parce que l'idée, ce n'est pas d'avoir des dons pour avoir des dons, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec ce château, quels sont les besoins de ce château. Donc, là, aujourd'hui, on a un programme de restauration de fenêtres, c'est assez impressionnant. Donc, on est.
Il y a combien de fenêtres ?
130 fenêtres.
130 ?
Voilà, 130. À rénover puis à laver après et faire une fois qu'on aura restauré.
Et il y avait combien de chambres dedans ?
Alors,
33. 33 parce que notre guide à chaque fois il disait si on retient c'est Bordeaux 33.
Ouais, 33. Il y avait 33 chambres, de nombreuses chambres pour les domestiques qui avaient leur étage. Qui ne se visite pas aujourd'hui puisque il est quand même dans un état.
C'est sous les toits peut-être.
C'est sous les toits de 4 mètres de hauteur quand même parce que.
Ah quand même.
On est oui.
Donc ils avaient un peu d'espace.
Alors, il faisait très froid, assez chaud, effectivement, l'été, puisque c'était sous les charpentes.
On parlait des dons, parce que
dons,
c'est important peut-être de préciser qu'effectivement, ce château, pour nous, il n'est pas rémunérateur. Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'il soit sauvé. On a notre travail respectif, Grégory et moi-même, et donc, c'est effectivement, on va faire appel... à des donateurs
C'est important de le dire parce que c'est vrai qu'on n'a pas des riches
américains
ou avec des fonds inestimables. Nous tout ce qu'on fait c'est vraiment avec du financement de banque. On croit à ce projet. L'idée c'est pas de gagner de l'argent avec ce projet, c'est d'équilibrer un projet économique aussi, c'est de pas en perdre en gros, mais on sait que on sera pas
on sera pas riche avec ce château.
C'est pas du tout le projet, c'est vraiment de le restaurer, de pouvoir le remettre en selle, le refaire vivre, et surtout aussi de le réaffecter dans le territoire. Aujourd'hui, jusqu'à ces dernières années, ces dernières décennies, il n'avait plus de fonction ce château, et que là aujourd'hui on veut vraiment qu'il soit au cœur de la vie du territoire et qu'il fasse revivre aussi, qu'il redonne des couleurs qu'il se redonne des couleurs à lui-même déjà, et puis qu'il se redonne des couleurs aussi au territoire, non pas qu'elle n'en ait pas, mais en tout cas qu'il puisse, à l'instar de certains pôles d'attractivité Brantôme, il y a un territoire qui peut être très vivant, mais il faut juste intéresser les personnes, intéresser la population locale ou pas locale, les touristes aussi, leur donner avoir des activités, et ça va être la vocation aussi de Fayolle.
Et c'est vrai que sur ce territoire, si on le réduit, je dirais, à une trentaine, à une vingtaine de kilomètres, il n'y avait pas énormément de châteaux, surtout inscrits.
Non, vous avez raison, parce qu'on est inscrit, un monument historique protégé, et que ce château, il est inscrit façade, toiture, parc, et on va l'inscrire aussi à l'intérieur. Donc il va être totalement protégé d'ici l'année prochaine, donc monument historique. Et ça, c'est quand même. Parce que la direction régionale des affaires culturelles souhaite absolument le protéger, puisque c'est vraiment un bijou du territoire. Et ça, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience, que des châteaux au XVIIIe siècle sur le Périgord vert, il n'y en a pas d'autres comme ça. Oui, c'est vraiment exceptionnel en termes d'architecture, de ce qu'il peut présenter en termes de contenu. Et donc, il faut préserver ce type de monument. Donc, il n'y a pas beaucoup de châteaux dans le Périgord vert, à l'inverse du Périgord noir. On a Bourdeil, effectivement, qui se visite, qui est un grand château, qui est très connu. Et j'espère que dans les années à venir, on aura aussi le château de Fayolle qui pourra faire la part belle à Bourdeil, en toute humilité évidemment, puisque Bourdeil a un savoir-faire depuis de nombreuses années. Voilà. Et d'ailleurs, ils ont un destin croisé, Bourdeil et Fayolle, les Bourdeil étaient côté anglais dans les guerres des religions, tandis que Fayolle était français.
Il n'y avait pas une grande entente.
C'est surtout que les deux seigneurs de Bourdeil et de Fayolle se sont battus en duel. Voilà. Bon, l'issue est que le seigneur de Fayolle a gagné. Mais voilà, il y a eu effectivement, il a été de nombreuses fois attaqué par Bourdeil. Fayolle a été attaqué et brûlé aussi par Bourdeil. Donc il y a une vraie histoire commune entre ces deux châteaux, ces deux territoires.
Florence et Grégory, merci. Nous arrivons au terme. On a passé un très bon moment. On a appris beaucoup de choses. Et je pense qu'on a donné envie aux Périgourdins et même à tous les touristes qui viennent sur notre belle terre d'aller visiter ce beau bâtiment, ce patrimoine majestueux qu'est le château de Fayolle.
Mais merci à vous. Merci de nous avoir reçus. On reviendra avec plaisir.
Ah oui, voilà. À très bientôt. Voilà. Mais pour finir, Grégory et Florence, je leur ai demandé ce qu'ils avaient envie de nous faire écouter. Donc, une musique porte bonheur, et j'espère qu'elle leur portera très très longtemps bonheur. Wild is a Wind, donc à écouter tout de suite de David Bowie. Ouais. Merci à vous tous et à très bientôt.
Merci,
au revoir.
Au revoir.
Bienvenue sur RLP pour notre rubrique Culture éclair. Une demi-heure d'échange, de partage, de passion, d'idées de sortie et tout simplement de plaisir.